Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.
Mais non, nous ne sommes pas des terroristes. Je ne suis pas un terroriste et je suis décidément tout seul. Pascal, aujourd'hui encore, a dû être retenu pour les obligations dont je ne vous livrerai pas la nature car je reste discret. Au sommaire de cette émission, mis à part la revue de presse semaine 17 concoctée par nos trois amis de l'April, eh bien, on aura au téléphone Benjamin Bayard pour parler eh bien, de quoi ? De l'Internet, puisque le web libre a 20 ans. Plusieurs quotidiens ou hebdomadaires se sont fait l'écho de cet anniversaire quand même assez glorieux, notamment Rue 89 par exemple. Et bah, il y a 20 ans et même il y a 21 ans, puisque c'est en 1992, eh bien, Benjamin Bayard créait le French Data Network, une association citoyenne dont le but était la promotion et l'utilisation des réseaux Internet et Usenet, donc en fait le plus ancien fournisseur d'accès Internet en France qui est associatif, figurez-vous, si vous ne le saviez pas, eh bien répétez-vous-le et ne l'oubliez pas. Donc dans 20 ans, le web libre sera-t-il toujours libre? C'est un petit peu le fil d'accroche avec lequel nous démarrons. Et puis on aura aussi Johan de la Quadrature du Net, car on l'avait dit quand on avait, on va dire, célébré la victoire contre ACTA, depuis il y avait eu SOPA et PIPA qui étaient de nouveaux projets d'accords commerciaux qui, sans vouloir le dire, voulaient réglementer la liberté d'expression sur Internet. Et bien ça repart avec un nouveau traité transatlantique, celui-là, qui s'appelle TAFTA. Où est-ce qu'ils vont chercher des acronymes aussi stupides? Peu importe, le sujet est grave, on en parlera, mais on en parlera aussi entre des pauses musicales que l'on fera avec Lacrimosa, avec un extrait de diverses bandes originales de films qu'ils ont produits. Ça s'appelle Éponyme 1 et on en écoutera tout au long de cette 168e Divergence numérique. Nous saluons les auditeurs de Divergence FM, bien entendu, mais aussi ceux de Radio Larzac et de Radio Escapade qui ont le bon goût de nous diffuser tout de suite la revue de presse de l'April, semaine 17.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 17, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
T'es pas bronzé Manu, c'est quoi ce bordel?
Eh ouais, hein, moi je fais attention à ma forme. Par contre, j'ai pris plein de piqûres de moustiques. Hein. La Sardaigne, c'est pas facile la vie. Donc, on a une petite revue de presse, moins d'une dizaine d'articles. On va vous parler d'impression 3D et de DRM, le droit d'auteur et un futur traité transatlantique, yeah. Les DRM, encore une fois, mais ceux qui sont liés au W3C, donc à Internet, le projet vidéo en poche, le contrat armé et Microsoft qui en revient encore, et pour finir, petite présentation sur Algeria 2.0 qui s'est déroulée il y a peu de temps.
Voilà, donc on a quelques sujets déjà vus, mais quelques sujets intéressants quand même. Hein. Petite revue de presse, mais avec des trucs assez originaux, je trouve. Futura Science, piratage DRM, l'impression 3D s'invite dans les débats sur le libre, un article de la rédaction.
Donc un nouveau site. Alors l'article est un petit peu vite fait, mais c'est amusant de voir ce que fait l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Il semblerait qu'ils s'avancent et ils veulent prendre de la place en lien avec les imprimantes en trois dimensions.
Aujourd'hui, la pression 3D, ça démarre fort, ça commence à bien arriver un peu dans les chaumières. Donc il y a des sites, The Pirate Bay par exemple, qui a commencé à mettre à disposition des modèles d'impression 3D. Et bien sûr, l'OMPI a dit ça serait pas mal qu'on refasse la même chose qu'avec l'économie du divertissement, qu'on revienne avec plein de brevets dans tous les coins, le droit d'auteur bloqué à mort, et qu'on applique la même chose sur les impressions 3D.
Ils prennent les choses à l'avant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'impression 3D, c'est encore pas complètement gadget, il y a des gens pour qui c'est très utile, mais on fait des objets en plastique, voire en métal, mais c'est pas des trucs hyper fonctionnels, on n'en est pas à copier des objets du commerce facilement. Et puis bon, il y a pas mal de battages, on a parlé par exemple de quelqu'un aux États-Unis qui avait fait une arme à feu, un fusil d'assaut en impression 3D.
Et ça avance parce qu'il semblerait qu'il va pouvoir la réutiliser, ça ça va pouvoir tirer plusieurs balles.
De ce que j'ai lu, ça en tire 4 ou 5. Et après,
ça avance.
Donc voilà, donc aujourd'hui, ça reste cher, hein, parce que l'impression 3D, il y a des services qui font ça en ligne. Ça reste quelque chose quand même de très très cher. Pour un petit objet, on arrive à plusieurs dizaines d'euros, voire des centaines d'euros dès que ça commence à être un petit peu gros. Mais bon, dans les 10 ans à venir, c'est sûr que ça va changer pas mal de choses. C'est l'occasion d'en discuter et d'en débattre. Lemonde.fr, la défense du droit d'auteur dans le futur traité transatlantique. Un article de la rédaction, encore elle, mais c'est pas la même.
Et donc on parle de traité, ACTA, CETA, PIPA, SOPA, et là on a un nouveau nom.
Voilà, on a TAFTA qui vient de sortir, donc ils vont faire tout l'alphabet, je crois. Bon, bah, c'est dans la suite de tout ce qu'on a déjà combattu auparavant. C'est encore remettre le droit d'auteur, la propriété intellectuelle dans tous les brevets. Et...
Ouais, mais attends, je pensais pas que ça partait comme ça. Pour le coup, c'est un traité qui est intéressant. C'est un traité transatlantique, Amérique du Nord, Europe, et c'est plutôt économique quand même. Là, vous êtes deux, les gars.
C'était pareil avec ACTA. Bon, c'était niveau mondial, donc là, on est sur quelque chose de plus petit. On sait qu'en Amérique du Nord, ils ont leur propre truc. Et ce genre de proposition arrive toujours camouflé dans des choses plus larges, avec plein de bonnes intentions, et il faut aller les débusquer. C'est un travail que fait la Quadrature du Net, notamment en allant analyser pour voir ce qu'il y a vraiment dans le détail d'un texte, dans ces machins qui sont interminables et vraiment pas drôles à lire. Et effectivement, là, on trouve quelques perles.
Donc, de quoi il parle ? Parce que, bon, on a l'économie, mais à côté, quoi ? Il y a des brevets, il y a du droit d'auteur, ils vont attaquer le cinéma ?
Bah, il y a pas mal de choses, en fait. Ça te parle aussi de vie privée, propriété intellectuelle, de droit, enfin, de toutes nos données.
Parce que ça, les données personnelles, ouais, ils expliquent que c'est vraiment le gisement de bénéfices à venir et que, bon, il faudrait pas quand même qu'il y ait que les entreprises américaines qui en profitent.
Ouais, mais l'Europe, nous, a priori, on est en avance là-dessus. On a la CNIL, quoi, qui nous protège, hein, les gars.
Bah, on a la CNIL, mais il y a pas mal d'entreprises qui profitent un peu du système en se mettant à l'étranger, en se déclarant à l'extérieur, et puis comme ça, ils sont plus couverts par les droits de la CNIL. Bon, bah, Facebook, c'est un bon exemple, hein. Ça a beau être utilisé par des Français. Vous pouvez toujours aller vous plaindre pour demander la suppression de vos données. Je pense que vous avez à peu près aucune chance d'arriver à votre fin, quoi.
Faut avoir un très bon avocat californien, quoi.
Ouais, et encore, je suis même pas sûr que ça puisse suffire.
Et donc là, ils vont nous faire un beau traité. Donc ça, c'est quoi ? Il y a un combat entre la vie privée d'un côté et les échanges de données, la protection des œuvres, voire des marques.
Bah, aujourd'hui, on sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est-à-dire que c'est une première communication sur la mise en œuvre de ce truc-là. On se rappelle que dans ACTA, pendant très longtemps, le contenu était gardé secret et que c'était négocié entre les États et des grosses entreprises. Donc là, ça avance. Je sais pas si c'est exactement la même procédure, mais de la même façon, on n'a pas un machin transparent où on sait d'entrée de jeu quels sont les objectifs et quel est le contenu de cet accord.
Bref, un beau bordel en perspective. J'attends des retours de la Quadrature. Ils sont plein de gars qui savent analyser ces traités-là. Et puis on se retrouvera peut-être dans les rues pour aller défendre nos libertés encore une fois.
PC Impact, DRM, 27 organisations demandent au W3C de rejeter le futur standard EME, un article de Vincent Herman.
Alors, le standard EME, le W3C...
Bah, c'était un peu la suite de l'article de la semaine dernière. Donc, pour rappel, c'est le W3C, donc l'organisme de normalisation d'Internet, enfin du web, qui veut aujourd'hui faire rentrer des DRM dans la norme même HTML. Donc, ça a été la levée de bouclier parce que ça cache énormément de choses, en particulier que ça impose du logiciel privateur dans les navigateurs, puisqu'on imagine bien que les sociétés de production de vidéos ou autres vont pas trop vouloir qu'on publie les données et ça rejoint la problématique vidéo. Holan aussi qu'il y a eu il y a quelques temps.
Avec l'Adopi, oui.
Avec Adopi, donc ça cache plein de choses, et c'est pas très bon pour la liberté, et surtout pour une W3C qui est censée normaliser tout ça et standardiser tout ça.
C'est-à-dire que si j'ai bien compris le fonctionnement de ce truc-là, ça va faire fonctionner un code complètement obscur, ou en tout cas appeler des services de l'extérieur dont on ne sait absolument pas comment ça va fonctionner, ni ce que ça fait, alors que jusqu'à maintenant, le principe de tout ce qui était Internet, c'est que c'était complètement transparent. Enfin, sauf quand on faisait appel à des trucs dans genre Flash ou des choses comme ça.
Ça va être du même genre, a priori, parce qu'effectivement, on va t'envoyer un contenu qui sera chiffré, et à un moment donné, on va bien t'envoyer la clé pour déchiffrer ce contenu, hein, pour voir une vidéo, par exemple, une vidéo Netflix, hein, qui est une des entreprises intéressées par ces problématiques-là. Et donc, on t'envoie la clé d'un côté, on t'envoie le contenu de l'autre. Il faudra un petit boîtier, une petite boîte noire, un petit logiciel dont tu n'auras pas le code source, hein, nécessairement, qui fera le déchiffrage et qui le fera un petit peu dans ton dos, parce que, bah voilà, on ne va pas te donner les infos qui permettent de pirater ensuite ce contenu.
Voilà, donc ça va poser des problèmes puisque ça va être des plugins privateurs, on n'aura pas accès à tout ça, on saura pas comment ça fonctionne, on saura pas qui aura le droit de lire ou pas. Donc demain on pourrait avoir le Netflix par exemple qui décide, ah ben non, toute la France a plus le droit d'avoir accès à nos vidéos, vous faudra payer. Donc ça cache beaucoup,
voilà,
beaucoup de
ça
choses.
Ça rappelle, et c'est des choses qui avaient été évoquées, la question des DVD, tout le monde a expérimenté ça avec les zonages de DVD par zone géographique, hein, qui n'a aucune explication technique, hein, c'est juste pour segmenter le marché et le vendre à des prix différents à chaque fois. Et donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on pourra mettre par Internet. Donc Internet, ce machin qui est par définition mondial, dans lequel on risque de retrouver des zones. Voilà, c'est une des craintes qui avait été exprimée. L'article est pas mal du tout parce que bah, y a un peu plus d'infos, ça rentre un peu plus dans le détail de comment c'est censé marcher, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Jusqu'à maintenant, on était un peu dans les grandes lignes. Et donc là, on a quelque chose de plus précis. Donc ça vaut le coup d'aller se documenter un petit peu.
Oui, hein, je rappelle, EME, enfin je rappelle, jeudi, c'est Encrypted Media Extensions, donc des extensions de médias chiffrés, on pourrait dire.
Après ma blog, soutenons le projet Vidéo en Poche des Cinémas Utopia, un article de AK.
Alors, Vidéo en Poche et Cinéma Utopia, il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais il y a pas mal de mois déjà.
Oui, ce truc existe depuis 2 ans, et c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que c'était pas juste un feu de paille et un machin pour faire du buzz, ça tient. Et ben, c'est tout bête, on va au cinéma dans les cinémas Utopia, et pour quelques euros de plus, on peut avoir un film, un vrai film qu'on achète. Quelques euros, 5 euros je crois.
5 euros, dont 3 euros versés aux auteurs.
Dont 3 euros versés aux auteurs, et le cinéma nous le met sur une clé USB sans DRM, sans système de contrôle.
Waouh! C'est gigantesque. Bientôt, ça va arriver à UGC, Gaumont et autres, j'imagine bien.
Là, tu t'enflammes un petit peu, là, Manu, je crois, parce que bah, ouais. C'est toujours le même problème. Hein. C'est les non-yés ayant droit, on va dire, les gros majors vont vouloir la part du gâteau. Et voilà, donc les petits projets comme ça, c'est quand même relativement bien. Ça promeut vraiment le libre. Dans toute sa splendeur, et là, comme quoi ça peut marcher.
Les films ne sont pas nécessairement libres dans ce cas-là, hein, mais en tout cas, ils sont diffusés sans DRM. Donc l'article est une interview de Rodolphe Village, et qui vraiment explique comment ça marche, pourquoi ils le font. Alors évidemment, Utopia, c'est un tout petit réseau de cinéma indépendant, et derrière, il y a vraiment une démarche pour essayer de trouver des solutions différentes, innovantes, qui sortent du gros rouleau compresseur, et bah voilà, c'est beau. Moi, ça me met la larme à l'œil, et il va falloir que j'aille dans un cinéma Utopia bien prochainement. France Info, un contrat armé Microsoft qui énerve, un article de la rédaction. Ça revient en troisième, quatrième semaine, cette question qu'on a lancée entre l'accord Open Bar de Microsoft avec le ministère de la Défense. Donc ça continue à faire du bruit.
Et oui, hein, et parce que là c'est un article, mais il y en a d'autres qui ressortent. Et donc effectivement, c'est un scandale. Tout le monde est à peu près d'accord sur ce sujet-là, sauf j'imagine les deux intéressés. Parce que bah, globalement, c'est un problème économique, c'est un problème légal au niveau du fisc par exemple, et c'est aussi un problème de sécurité grave.
L'article met l'accent un peu plus sur le lien avec l'OTAN. Qu'en fait, le contrat Open Bar, une des justifications de ce contrat, ça serait que l'OTAN, pour avoir de l'interopérabilité ou de la compatibilité entre les différents armées imposeraient plus ou moins Microsoft, parce que c'est quelque chose qui est déjà utilisé, donc ils veulent l'utiliser partout ailleurs. Il y aurait aussi derrière ça caché peut-être la NSA, qui aimerait bien pouvoir contrôler un peu tous les systèmes.
C'est un des risques, effectivement.
C'est un des risques, voilà.
C'est plus qu'un risque, hein. Je suis tombé sur un autre article un peu plus précis, où la NSA expliquait qu'elle avait contribué à Office, Windows, toutes ces planopies logicielles, et ils en étaient très fiers.
Hein. Ah oui, et puis de toute façon, il y a déjà eu des, c'est même plus des rumeurs, c'est presque officiel de confirmation de la NSA, qu'il y a bien des backdoors dans certains logiciels pour permettre à la NSA d'accéder à des données en cas de problème qui concernerait la sécurité nationale mais américaine et donc pas du tout la sécurité nationale française.
Je rajouterais, c'est pire que ça encore, c'est pas parce qu'on pourrait vérifier le code source que certains États ont, hein, Microsoft veut leur faire plaisir, et il faut aussi s'assurer que les binaires ont bien été compilés comme il le faut, en partant des bonnes choses, et ça la NSA, j'ai pas de doute là-dessus, ils savent rajouter en douce des petits trucs qui leur permettent d'avoir les accès qu'ils veulent, et je veux dire, n'importe quel État profiterait de ce genre de ressources-là pour pouvoir accéder même aux infrastructures de ses alliés, hein. Après tout, il n'y a rien de tel que d'avoir plus d'informations, et puis bon, on a confiance, mais quand même, il y a des limites.
Moi qui pensais que tous les diplomates étaient des gentils, je suis un petit peu déçu. Maghreb émergent, Algérie 2.0, le libre en exploration au carrefour des professionnels des TIC, un article de Nejma Rondeleux.
Donc un article en plusieurs parties, qui commence en force avec une petite discussion sur AK.
encore lui, donc Alexis Kaufmann, de son vrai nom, qui est le fondateur de Framasoft.
Et je rajouterais, allez jeter un œil, hein, ils viennent de mettre à jour leur page de présentation. Ça faisait une dizaine d'années qu'elle n'avait pas bougé, comme quoi c'était une page très stable et très efficace. Donc il faut aller jeter un œil, c'est sympa.
Voilà. Et donc bon, bah, là, il s'agit en fait d'une rencontre autour du libre, comme on en parle régulièrement dans la revue de presse, donc, qui s'est passée en Algérie. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'Afrique du Nord, ça revenait quand même très régulièrement dans la revue de presse. Donc bah, c'est bien de voir que ça continue à bouger. On avait beaucoup parlé de Tunisie, bah, là ça se passe en Algérie, ça revient aussi une fois de temps en temps, et ça ressemble à ce qu'on a pu voir ailleurs.
Oui, bah, c'est une journée organisée autour du libre, donc avec des présentations, des démonstrations autour d'OpenStreetMap ou de choses comme ça. Donc bah, l'article cite par exemple qu'en Algérie, le site d'OpenStreetMap Algérie est beaucoup plus rempli que celui de Google Maps, parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans, ça bouge énormément autour du libre, il y a beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des Fab Labs en France qui se développent là-bas, donc c'est un peu le cœur chaud du libre actuellement au monde.
Voilà, bah, bonjour à tous les adhérents algériens, on en a quand même quelques-uns, on a régulièrement des adhérents de toute l'Afrique d'ailleurs, hein, qui adhèrent à l'April, bah, voilà, c'est sympa, et puis ça fait plaisir de voir que ça se développe là-bas. Bah, on a fait le tour.
N'est-ce pas?
Oui. Voilà.
Et bah, merci à vous, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et nous les remercions pour cette revue de presse. Un petit peu de musique à présent avant de retrouver notre prochain invité au téléphone. Il s'agira de Benjamin Bayard pour parler un petit peu du web qui a 20 ans, enfin du web libre qui a 20 ans. Sera-t-il encore libre dans 20 ans? C'est une question assez préoccupante. On écoute donc notre film musical du jour. C'est le Lacrimosa qui sort un album intitulé Éponyme 1. A Soundtrack for My Life, une série d'albums éponymes qui sont une collection de morceaux inédits, remasterisés, parfois recomposés, qui regroupent des morceaux illustratifs, des bandes originales de films composés entre 1999 et 2012. Cet album est le premier d'une série de trois destinés à publier les divers morceaux jusqu'à présent inédits. On écoute deux extraits du court-métrage The Day Before Us, et les deux titres sont The Engraved Teardrop et Heart Melt. extrait de la bande originale The Day Before Us, extrait lui-même de l'album éponyme 1, Soundtrack of My Life, c'est Lacrimosa Eterna Industries qui sort cet album en licence art libre CC by Music, sorti donc en décembre 2012 et qui est notre fil musical du jour. Comme je vous l'annonçais au sommaire, nous sommes à présent au téléphone avec Benjamin Bayard. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors, la presse se fait l'écho d'un anniversaire, celui du web libre, que ce soit du Figaro à rue 89, tout le monde y va de son petit hommage, avec plus ou moins de, on va dire, d'originalité. Alors, au-delà, on va dire, de la libération des travaux du CERN, il y a donc une bonne vingtaine d'années, et puis, on va dire, et puis aussi de Tim Berners-Lee, il faut bien comprendre que French Data Network, dont tu es le fondateur, qui est le plus ancien fournisseur d'accès Internet français, lui a été fondé en 92, donc ça fait 21 ans, si je compte bien. FDN serait-il plus ancien que le web ?
Ben oui, du coup, oui. FDN, ça date d'avant le web. Il y avait un Internet avant le web, et il y a encore des grands bouts de cet Internet qui fonctionnent et qui sont utilisés très quotidiennement.
D'où ta place d'observateur privilégié de ça, puisque tout le monde titre le web libre à 20 ans. La question qu'on peut se poser quand on voit les différentes attaques contre cette fameuse liberté du web, tu es plutôt bien placé pour peut-être se demander si dans 20 ans il sera encore libre.
Alors, il faut repérer, il y a des éléments fondamentaux là-dedans. Le web est libre parce que le CERN a décidé de ne pas poser de brevet dessus. Mmh. C'est fondamental. Tout ce qui tourne autour d'Internet a pu prendre son essor parce que les gens qui l'ont inventé ont décidé de gagner de l'argent par les services qu'ils rendaient et non pas par des royalties. Mmh. C'est fondamental. Toute l'électronique, par exemple, vient du fait que quand le transistor a été inventé, il n'a pas été couvert par un brevet et c'était un choix pour qu'on puisse avoir des transistors partout. Tu imagines un modèle dans lequel on dit qu'il y a une licence pour fabriquer un transistor, bah, du coup on fabrique jamais de microprocesseurs, c'est trop cher. Mmh. De la même manière, quand le CERN a inventé le web, il l'a inventé pour ses besoins propres, pour indexer toute la documentation scientifique qui est produite par les milliers de physiciens qui travaillent au CERN. Et en fait, le bénéfice qu'ils tiraient du fait de pouvoir indexer leur documentation leur suffisait. Ils ne cherchaient pas à faire des royalties dessus. Mmh. Et tant mieux. S'il y avait eu des royalties dessus, cette techno n'aurait pas été un succès. En fait, tout, fondamentalement, là-dedans, tout vient de ce que les techniques sont librement réutilisables. Mmh. Et c'est en fait un des piliers d'Internet. Le web libre a 20 ans, mais l'Internet libre en a à peu près 40. Et tout vient là-dedans de ce que toutes les technologies sont interopérables et sont librement réutilisables. Quand le mail a été inventé, il était loisible à chacun d'écrire le client mail qu'il avait envie ou d'écrire le serveur mail qu'il avait envie, et tout ce petit monde, bon an mal an, coopère. De la même manière pour le web, quand tu utilises Firefox ou Chrome ou Internet Explorer ou Safari ou Lynx ou n'importe quel autre, tu te poses jamais la question de savoir quel est le serveur web qui est à l'autre bout. Que ce soit un Apache ou un Nginx, tout ça interopère. Il y a toujours des petits problèmes de compat parce que ton navigateur ne comprend pas telle variété de JavaScript ou telle variété de tel détail. Mais l'immense, si tu veux, 99% de ce volume-là fonctionne parce qu'il est basé sur des technologies qui sont libres de droit et qu'on a le droit de librement implémenter et de librement utiliser. Mmh. C'est fondamental.
Alors, c'est vrai qu'au début de l'informatique elle-même, il n'y avait pas de brevet logiciel, enfin on n'y pensait pas vraiment. L'Internet, tu le dis, c'est créé un petit peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu raisonnable, où on était déjà conscient à l'époque finalement d'enfermer les choses dans des brevets, c'était contraire à la notion même de progrès quelque part, sauf que depuis 20 ans, on a l'impression, on a vu les géants de l'informatique rentrer dans une espèce de course à l'échalote et de guerre ouverte aux brevets qui font beaucoup de bruit en ce moment, avec les fabricants de téléphones notamment et les géants d'Internet, Google et compagnie, on a quand même l'impression que cette idée ou cette sagesse ancienne de se dire oh, si on enferme le truc dans un brevet, ça va faire créer plus de misère que ça va rapporter de richesse, on va dire, à l'ensemble des utilisateurs, elle est un petit peu oubliée, cette sagesse-là, ou est-ce qu'elle va revenir ?
Alors, elle n'est pas forcément oubliée, mais elle... En fait, les brevets sont toujours utilisés, soit par quelques très rares petites entreprises qui font une grosse avancée en termes d'innovation et qui s'en servent pour se protéger. C'est plutôt l'exception. La règle étant en général que les brevets sont utilisés par les grands groupes pour se défendre contre les petits. Donc c'est un moyen pour les grands groupes d'asseoir leur domination autrement qu'en innovant. Ils créent des petites innovations, des innovations très mineures, sur lesquels ils posent des brevets. Ils finissent par en détenir un très grand nombre. Et donc, quand un petit acteur arrive avec une vraie innovation, avec une vraie bonne idée, pour mettre en œuvre sa vraie bonne idée, il est obligé d'utiliser les 30 000 petites idées des grands groupes. Et donc, très très rapidement, s'il perd, s'il se retrouve en infraction avec les brevets, il se retrouve mangé par les grands pour ne pas avoir à payer les royalties. Donc, ce mécanisme-là est en fait un mécanisme qui permet aux grandes entreprises de se prémunir contre l'innovation. Et c'est pas spécifique à l'informatique, ça marche aussi comme ça dans l'industrie. Et des brevets dans l'industrie ou dans le pharmaceutique permettent aux grands groupes de se prémunir contre l'innovation des petits. Et c'est très classique. Ça fonctionne comme ça. Les pays émergents ont tendance à ne pas reconnaître les brevets, ce qui leur permet de copier et d'innover, de reprendre les bonnes idées qu'ils ont vues à droite à gauche chez tel ou tel grand fabricant, qui leur permettent de lancer leurs produits, et ils partent du principe que les brevets, ils n'en ont rien à foutre, et quand ils seront devenus des pays riches, ils s'intéresseront aux brevets. Internet fonctionne sur un modèle assez différent. L'idée d'Internet, ce n'est pas de définir un produit et de breveter un produit, c'est de définir des normes d'interconnexion. Or, breveter une norme d'interconnexion, c'est idiot. Une norme d'interconnexion, par définition, c'est fait pour brancher ensemble deux choses. Que ce soit une prise électrique qui permet de brancher ton rasoir électrique sur le réseau EDF, ou que ce soit une prise USB qui permet de brancher ton téléphone sur ton ordinateur. Internet ne sert qu'à définir des normes d'interconnexion. Breveter une norme d'interconnexion, c'est dire qu'il sera impossible à deux éléments d'interagir entre eux. C'est contre-productif par nature. Et à l'heure actuelle, les entreprises ne se servent des brevets que de cette manière contre-productive. Apple, pour essayer d'empêcher Samsung de fabriquer un téléphone qui a une forme rectangulaire, je vois pas bien quelle autre forme il pourrait avoir. Bon, un téléphone en forme de sphère, je vois pas comment ça marche. Un téléphone en forme de raquette de tennis ou de poêle à frire, je vois pas à quoi ça sert. Donc, ils arrivent à faire entendre que des brevets ont été déposés sur le rectangle à coin arrondi. Tu parles d'une innovation majeure. L'homme préhistorique n'avait pas inventé le rectangle à coin arrondi. Donc, les éléments fondamentaux sont ceux-là. Un des fondements d'Internet, par exemple, ce sont les normes qu'on appelle les RFC. Une RFC, c'est quand quelqu'un a l'idée de comment faire quelque chose, l'idée de comment faire du mail, l'idée de comment faire du web, l'idée de faire comment faire du DNS, il écrit la façon dont il pense qu'il faut le faire et il le publie sous forme d'un request for comment, un appel à commentaires. Et si personne ne fait de commentaires compliqués dessus, ben, ça veut dire que le truc est valide et qu'on peut s'en servir comme norme. Un RFC est toujours publié avec une implémentation logicielle librement réutilisable et dont les sources sont fournies comme étant la preuve du fait que le concept est utilisable. La preuve par l'exemple. Voilà, moi je pense qu'il faudrait faire du mail comme ça, et attaché à son document, il y a le code source d'un programme qui fait du mail comme il a dit, pour prouver que le truc fonctionne. Donc le fondement d'Internet, c'est ça. Les grands groupes cherchent à créer autre chose. Eux, ils cherchent à créer une puissance économique, un pouvoir économique, et ils utilisent les armes habituelles des grands groupes, que sont les brevets pour empêcher les petits de rentrer, etc. Mais ce n'est pas une bataille spécifique à Internet.
Oui,
c'est une bataille plus générale.
Oui, alors on le voit bien que finalement, cette bataille, elle est plus large que tout ça, puisqu'on l'a vu avec ACTA, puis on le voit en ce moment avec TAFTA. On va en parler dans quelques minutes avec des gens de la Quadrature. Mais justement, cette notion de faire, comme disent les anglo-saxons, de l'enforcement, de la soi-disant propriété intellectuelle dans des traités commerciaux qui, au départ, n'ont pas vocation à gérer Internet ou les communications des gens, etc., dans ces traités commerciaux revient systématiquement. systématiquement la question d'Internet et d'essayer de, on va dire, d'en prendre le contrôle, tout comme on le voit en ce moment avec le débat autour de l'introduction dans la nouvelle norme HTML, la cinquième, des DRM, ces menottes numériques qui viseraient à interdire on va dire, ou à contrôler totalement les fichiers multimédia sur Internet. Donc la tendance quand même à aller contre cette liberté du web, elle est lourde en ce moment.
Elle est lourde en ce moment, c'est pas récent. Si tu veux, si je prends l'exemple des attaques par les politiques, les premières en France qui ont été visibles dataient de 96. L'idée avait été déposée sous forme d'un amendement par un député du nom de François Fillon, devenu un peu plus visible politiquement par la suite. Il proposait que pour avoir le droit d'ouvrir un site web, il faille demander l'équivalent d'une autorisation d'émettre au CSA. Comme pour une chaîne de télévision. Donc ça, c'était une idée innovante de M. François Fillon en 1996. Donc si tu veux, les attaques contre les libertés sont pas nouvelles sur Internet. C'est à peu près aussi vieux qu'Internet lui-même. En fait, quand il est devenu visible par les politiques ou par les grands groupes, quand il est devenu encombrant, il a commencé à être attaqué. Ce qui est par contre révélateur, c'est le fait que ces attaques deviennent nombreuses et deviennent extrêmement puissantes. Et ça, c'est signe, d'une part, de l'affaiblissement des attaquants, et d'autre part, de la prise de puissance d'Internet. Si tu regardes ces attaques comme étant la réaction qu'ont les tenants de l'ordre ancien à l'ordre nouveau qui est en train d'arriver avec le réseau et avec la société du numérique, quand tu mesures la réaction, tu mesures l'action. C'est un principe de physique newtonienne. Quand une balance, ça mesure pas ton poids. Ça mesure la réponse à ton poids. Ça mesure la réaction qu'a le ressort de la balance au poids que tu exerces dessus. Mmh. Et donc la mesure de la réaction est une mesure exacte de l'action. Et donc la mesure de la réaction qu'est la violence des anciens pouvoirs et des anciens systèmes contre l'avènement des nouveaux modèles qui viennent du numérique est une mesure assez précise de la puissance du changement introduit dans la société par les choses comme Internet et les nouveaux modèles sociaux qui en découlent. Donc oui, il y a une violence énorme qui apparaît. On voit des traités commerciaux qui parlent de pénal, qui parlent de délit pénal. C'est totalement nouveau, ça se pratiquait pas. Mmh. Les traités commerciaux, d'habitude, ça parle de droit de douane, ça parle de droit d'importer ou de droit d'exporter, ça parle éventuellement de normes, de dire tu n'as le droit d'importer en France que des appareils électriques qui respectent les normes électriques françaises, ce qui paraît évident. Normalement, les traités de commerce parlent de ça. Mmh. Et là, ils se mettent à parler de délit pénal. Ils se mettent à parler du fait que les fournisseurs d'accès à Internet sont priés d'appliquer des sanctions pénales à leurs abonnés. Donc on parle de police privée, enfin, on parle de choses qui sont tout à fait inhabituelles dans des traités de commerce et qui sont en fait des tentatives de pouvoir remis en cause par Internet, de se maintenir dans leur existence. Mmh. L'exemple type étant les moines copistes de DVD qui essayent de faire passer le maintien de leur ancien système par des traités plus ou moins bancals, comme on l'a vu dans ACTA, comme on l'a vu dans Adopi, comme on l'a vu dans tout un tas de traités ces 10 dernières années, dans tout un tas de textes. Ils essayent de maintenir le monde tel qu'il était, parce que dans le monde tel qu'il était, ils étaient riches et ils étaient puissants. Mmh.
Et oui, puis on avait même vu en 2005 un fameux traité ayant valeur de constitution. Donc finalement, tout passe par les traités. Et puis comme ça, personne n'y voit rien et le monde est parfait. Est-ce que ça veut dire, à t'entendre, peut-être qu'on peut poursuivre là-dessus, que finalement, si on regarde à l'échelle de l'histoire de façon assez naturelle, ce modèle du web libre finira par, on va dire, par emporter avec lui les résistances des tenants des anciens systèmes. Ceci étant dit, à court terme, on a l'impression qu'on va au clash, que ça pourrait être pire dans les années à venir.
Oui, les précédents historiques sont assez inquiétants. Si tu regardes ce que fait Internet dans sa façon de restructurer les sociétés, en fait, les sociétés se sont dotées de l'outil Internet pour pouvoir changer de structure et pour pouvoir améliorer l'efficacité de leur communication. Il y a un précédent historique à ça, relativement récent, qui est l'apparition de l'imprimerie à la fin du XVe siècle. C'est très similaire. L'imprimerie apparaît au tout début de la Renaissance parce qu'il y a recroissance de la quantité de savoir humain qui est produit et que les techniques de l'époque qui consistent à recopier les bouquins à la main ne permettent pas de diffuser assez vite suffisamment de savoir. Et donc il y a une pression, il y a un besoin de diffusion plus massive du savoir et c'est l'imprimerie qui, satisfaisant ce besoin, remporte un vif succès assez rapide, vu les techniques de l'époque, à travers toute l'Europe puis à travers le monde. Si tu regardes les conséquences qu'ont l'apparition des techniques type imprimerie sur les sociétés occidentales de l'époque, tu vois des changements énormes. C'est ça qui permet la diffusion des savoirs, c'est ça qui permet à la Renaissance de prendre toute son ampleur, c'est ça qui permet la philosophie des Lumières. Tu peux difficilement détacher l'apparition de l'imprimerie de l'apparition d'une liberté de la presse, de l'apparition des démocraties en Europe, etc. etc. Donc les conséquences sociales sont énormes. Mais entre-temps, la première réponse à l'apparition de l'imprimerie a été une réponse de l'Église. Ce qu'ont fait les gens qui se sont saisis de l'imprimerie, c'est d'abord de se saisir de la Bible. Et ces gens qui lisaient la Bible sans passer par le curé et qui se faisaient leur propre opinion dessus, c'est ce qu'on appelle des protestants. Or, ce mouvement de la réforme et du protestantisme a été source de guerres de religion dans toute l'Europe. Si tu te souviens de tes cours d'histoire, les guerres entre catholiques et protestants dans toute l'Europe, du, en gros, au XVIe ou XVIIIe siècle, ce sont des bains de sang. Ce sont des choses énormes. On parle de guerres entre villes en France. On parle de massacres. Quelque chose vraiment de très, 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 très massif. Et qui est un produit direct de l'ancien monde catholique essayant de résister au nouveau monde protestant. Mmh. Et il a fallu des siècles pour que ça s'apaise, et les tensions qu'on voit encore au XXe siècle entre la France et l'Allemagne sont des héritages du fait que la France est plutôt catholique et que l'Allemagne est plutôt protestante. Mmh. Donc tu vois des traces de tout ça sous forme d'une violence énorme. Et il y a une vraie question, pour le moment, si tu veux, la violence qui s'exerce, elle est très soft. Elle est sous forme de traités internationaux, il n'y a pas eu de bain de sang, il n'y a pas eu les tenants du copyright sous bannière Vivendi allant en guerre physique, couteau à la main, contre les tenants du libre et du copyleft sous bannière de Richard Stallman pour s'égorger dans les rues de Paris. Mmh. Pour le moment, c'est très soft. Il faut souhaiter que ça le soit, que ça le reste. Mais les exemples et les précédents historiques ne vont pas dans ce sens.
Donc il faut souhaiter que ce soit plutôt une révolution de velours qui se passe finalement là où elle a lieu, c'est-à-dire sur le réseau.
Oui, ce serait souhaitable, c'est pas mal. Si les cyberguerres font des cybermorts avec des cyberoctets décédés, c'est pas très grave.
Bah Benjamin, je crois qu'on va espérer que effectivement cette évolution se passe sans trop de dommages collatéraux et que le web reste libre pour les 20 ans à venir et puis pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Je rappelle que tu es le fondateur de French Data Network, le plus ancien fournisseur d'accès Internet en France.
Je ne suis pas le fondateur, j'en ai été président pendant 15 ans, c'est déjà pas mal.
Voilà, donc tu
as été fondé par d'autres que moi avant. J'étais trop petit à l'époque.
D'accord, mais tu étais un jeune padawan qui a tenu ses promesses. Merci beaucoup, Benjamin Maillard, et à très bientôt sur les ondes de Divergence.
À bientôt.
Au revoir. À présent, dans cette 168e Divergence numérique, toujours notre fil musical pour garder l'espoir, c'est Lacrimosa Externa Industry, cet album éponyme, hein, premier d'une série de trois, intitulé A Soundtrack for My Life, sous licence Art Libre CC BY Music, sorti en décembre de l'année dernière et qui propose diverses compositions plutôt dédiées à des courts-métrages. Ici, c'est une étude pour piano numéro 1 et un petit pantin au cœur de glace. Thank you. C'est en licence art libre que notre film musical de 768e Divergence numérique eh bien, nous accompagne avec toujours cet album éponyme numéro 1, A Soundtrack of My Life, de Lacrimosa Eterna Industry. Comme je vous le disais au sommaire, eh bien, c'est avec un des membres de la Quadrature du Net que nous sommes à présent au téléphone. Johan, bonjour.
Bonjour.
Alors on est là pour parler, alors on avait abondamment parlé de ACTA évidemment, qui a été débouté l'an passé, l'été dernier. Entre temps il y a eu d'autres initiatives de traités soi-disant commerciaux qui finalement ont quand même la prétention de régir nos libertés numériques élémentaires. Et là ça revient sous un nouvel acronyme qui s'appelle TAFTA. Bientôt ce sera Kafka je pense qui trouveront. Mais qui semble lui recevoir un accueil, on va dire, plutôt positif du Parlement européen, qui avait plutôt habitué les militants à être relativement prudents sur ces questions. Donc c'est le nouvel homme à abattre, TAFTA.
Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait les négociations n'ont pas encore commencé, et le mandat qui va être attribué à la Commission pour mener ces négociations, vient d'être voté par le Parlement européen. Et dans le projet de résolution, tel qu'il est en ce moment proposé, le Parlement invite l'intégration des droits d'auteur, des brevets et des marques dans le mandat de négociation. Et ça, en fait, ça ouvre la porte, encore une fois, à la même situation que CACTA et peut-être CETA, à se retrouver à un accord commercial négocié dans l'ombre, au lieu d'être débattu, qui aurait un impact sur les libertés fondamentales, sur la culture, sur l'accès aux médicaments, et, etc., etc., et très loin, en fait, de juste du commerce.
Alors ACTA, il avait sous couvert de lutte contre la contrefaçon, il a été négocié un petit peu partout aux quatre coins du monde par des représentants de firmes, c'est des représentants de la Commission, etc. Alors là, il s'agit d'un traité, on va dire, transatlantique. Par qui il est négocié, par qui il a été porté, qui y a derrière tout ça?
Alors cette fois-ci, l'idée, ce serait un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc pour l'instant, encore une fois, les négociations n'ont pas commencé, mais elles seraient menées par exemple par le commissaire Karel de Gucht, qui était un des fervents défenseurs et un des piliers des négociations d'ACTA.
Oui, donc c'est un petit peu les mêmes en quelque sorte.
Au niveau européen, oui.
Quel va être le déroulement des opérations? Le Parlement a adopté une résolution sur cet accord pour en parler, c'est bien ça?
Ouais, en fait, ça va être pour commencer les négociations, pour savoir ce que la Commission pourra inclure ou non dans les négociations qui vont être menées ensuite.
Pourtant, la société civile avait déjà, appelé le Parlement à faire sortir la propriété intellectuelle, entre guillemets, de cet accord TAFTA. Ils ont décidé de ne pas trop prêter l'oreille à ces réclamations.
Oui, complètement. En fait, au mois de mars, une déclaration de la société civile avait été signée par quasiment 50 organisations européennes et internationales qui appelaient le Parlement à exclure en fait toutes les mesures relatives aux brevets, droits d'auteur, protection des données, etc. En fait, toutes les formes de ce que nos adversaires appellent la propriété intellectuelle de ce traité. Mais le Parlement a choisi d'ignorer notre appel et de quand même inclure inclure tout ça dans le mandat de négociation.
Alors la décision, elle est citée hein, sur le site laquadrature.net. Le Parlement européen souligne que la propriété intellectuelle est l'une des forces motrices de l'innovation et de la création, ainsi qu'un pilier de l'économie, des savoirs, etc. etc. Quand on voit qu'il est clairement démontré aujourd'hui que, notamment en matière de brevets sur les logiciels, c'est plus un frein à l'innovation et au progrès qu'un accélérateur, cette prise de position, elle est un petit peu paradoxale.
Ah ben complètement, en fait. On a même l'impression que le Parlement ne tire pas de leçon d'ACTA et des mobilisations citoyennes et recommence à s'engouffrer en fait, dans le même processus qui a mené aux mobilisations citoyennes de l'année dernière contre ACTA et finalement au rejet d'ACTA. Et en fait, le Parlement est en train de reproduire le même schéma. Mmh.
Donc c'est quoi les protagonistes qui sont derrière ces multiples accords, puisqu'il y avait ACTA, mais entre-temps il y a eu PIPA, SOPA, CETA, etc. Finalement, c'est une guerre d'usure qui est menée.
Bah, il semblerait. En fait, nous, notre réponse à ça, c'est de dire que ces questions-là devraient être débattues, et non pas négociées dans l'ombre, et impliquer le Parlement européen, aux États-Unis, le Congrès, pour que les citoyens puissent savoir ce que pense chacun de nos représentants, et participer au débat.
Donc désormais, dès aujourd'hui, on peut, on va dire, solliciter les députés européens pour, avec le PIPhone, pour leur dire, non, c'est pas bien, etc.
Bah là, le vote vient d'avoir lieu, du coup, c'est maintenant trop tard. Mais aux prochaines étapes, c'est ce qu'on proposera de faire et contacter nos députés avec soit par email, soit par le PIPhone, comme vous le dites. Mais voilà. Donc, mobilisez-vous en informant vos proches et en diffusant l'information et aux prochaines échéances, il faudra peut-être à nouveau agir.
Des prochaines échéances dans le calendrier n'est pas encore défini ?
Voilà, c'est ça.
Sinon, à l'actualité de la quadrature, quel autre sujet tient la une ?
Alors, en ce moment, nous sommes très actif sur la protection des données, parce que le Parlement européen est en train de revoir sa législation de 1995, avec notamment l'idée de l'adapter à Internet. Et la Commission européenne a fait une proposition de règlement qui était plutôt bonne, mais le Parlement européen a été attaqué par des lobbies, une vague impressionnante de lobbyistes, et aujourd'hui, la proposition plutôt bonne de la Commission est en train d'être détruite par les députés qui intègrent les propositions des lobbies, parfois telles quelles.
D'accord.
Nous, en ce moment, nous travaillons là-dessus. Donc, nous appelons à un renforcement de la protection de la vie privée des citoyens. Et encore une fois, pour ça, il nous faut nous mobiliser et contacter nos représentants pour leur demander de mettre en place des barrières solides pour protéger notre droit fondamental à la vie privée.
Sur cette adaptation de législative, est-ce que on va dire les échéances, le calendrier est connu ?
Alors, a priori, le prochain vote aurait lieu à la fin du mois de mai, mais il se pourrait qu'il soit repoussé.
Nous ne manquerons pas de tenir nos auditeurs informés de tout ça. Je rappelle qu'on peut retrouver toute l'actualité de La Quadrature du Net, évidemment, sur www.laquadrature.net, ainsi que tous les outils pour contacter gratuitement vos eurodéputés et participer activement à la vie de la cité en Europe. Johan, merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt sur les ondes de Divergence.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà pour l'actu, la quadractu pourrait-on dire, donc laquadrature.net. On restera évidemment informé dans le courant du mois de mai pour connaître les échéances, les dates à ne pas rater pour faire grésiller, crépiter et chauffer le téléphone au Parlement européen. Toujours extrait de notre film musical du jour, c'est en licence art libre et ça s'appelle « Le chant du vent ». Thank you. Mélancolique, mais des fois il en faut. C'était un extrait de la bande originale du cours Delta T, toujours dans le cadre de ce film musical proposé par la Crimosa Eterna Industry. Quelques rendez-vous avant de se quitter avec l'air du magicien. Quelques rendez-vous localement avec ce soir une réunion d'information à la Maison pour tous Mélina Mercouri, organisée par Montpel Libre, et puis une saisie partie cet après-midi de 14 à 19h pour ceux qui ont participé à la cartopartie Malbosque Euromédecine. Ça se passe à la Maison pour tous Rosalie Parks, rue François-Henri d'Harcourt à Montpellier. Et puis, comme tous les jeudis de 19 à 22h, ces réunions de préparation RMLL 2013 qui, je vous le rappelle, auront lieu à Bruxelles cette année avant d'avoir lieu dans notre bonne ville de Montpellier pour 2014. Vendredi, demain, de 14 à 19h, atelier libre, point libre, permanence Linux et logiciel libre, ainsi que Linux audio. Ce sera au 21 boulevard Louis Blanc chez nos amis de Kawenga. Toujours demain de 17 à 18h, ce sera les ateliers libres, point libre, atelier Blender dans la foulée. Et puis demain de 18h à, de 18 à 19h, ce sera une présentation des points libres. Réunion de préparation des RMLL 2014 pour ceux que ça concerne, ce sera demain soir aussi. Sinon, ce lundi 13 mai, ce sera un apéro-spip à l'espace de Coworking, Cowork in Montpellier, 22 rue de la République, de 19 à 22h30. Et puis les mardis 14, 21 et 28, ce sera Notion PC, atelier Open Office et LibreOffice à la médiathèque de Téran, donc les 14, 21 et 28 mai, de 9 à midi. Et puis les mardis 14, 21 et 28 aussi, de 14 à 16h, à Castelnau-le-Lez, MJC André Malraux, atelier libre, section Glunilux, découvrir et installer initiation au logiciel libre. Tous ces autres rendez-vous, vous les retrouvez sur http://montpel-libre.fr. Et puis pour les agendas plus vastes et plus nationaux, c'est agendadulibre.org pour la France.be, pour la Belgique.ch pour nos amis suisses, ou .qc.ca pour nos amis du Québec. On se quitte donc toujours avec un extrait de A Soundtrack for My Life, sorti en décembre 2012 sous licence Art Libre. Et là, c'est l'ère du magicien. On vous souhaite de passer une excellente semaine et de rester libre.